19h-20h, les informés des quartiers, présentés par Adil Farkan sur Beurre FM.
Quel plaisir de vous retrouver, nous sommes vendredi et on est là pour fermer la semaine avec vous. Et oui, chers amis, les informés des quartiers. Allez, au sommaire de cette émission, nous sommes ensemble jusqu'à 20h pour comment analyser, décrypter l'actualité. On reviendra sur l'actualité du jour. On parlera des agriculteurs qui sont en colère. Qui va gagner le match? L'exécutif ou les agriculteurs? Oui, c'est le défilé au salon de l'agriculture, y compris évidemment avec toutes les personnalités politiques. Encore tout à l'heure, il y a quelques heures, c'était le défilé de François Hollande, l'ancien président de la République, qui s'est évidemment, qui a beaucoup échangé, qui a pris le temps d'échanger avec les agriculteurs. Nous parlerons aussi, vous savez quoi ? Eh bien, d'un autre match d'ailleurs. Anne Hidalgo, la maire de Paris, mais également face à elle, Rachida Dati, la ministre de la Culture. Eh bien, figurez-vous que ça devient mordant. Mordant au point, vous savez quoi ? Ça se déchire par la presse. Eh bien, on en parlera, on reviendra sur ce sujet qui quand même implique 200 millions d'euros, hein, c'est pas rien. Nous reviendrons sur la situation qui inquiète tout le monde, y compris la communauté internationale. Mais là, les voix commencent à se soulever un peu partout dans le monde. On parle de Gaza, la meurtrière distribution de nourriture. Mais surtout, on reviendra sur la situation aujourd'hui qui inquiète. Parce que beaucoup de Palestiniens réclament refuge en Europe. On reviendra sur ces sujets qui nous ont évidemment retenu notre attention, C'est parti, c'est tout de suite, c'est maintenant toute liberté d'expression, mais surtout 01 53 48 3000, vous êtes prioritaire et Solal vous accueille à tout moment, c'est parti.
Les informés, le face-à-face
avec Emmanuel Dupuis, c'est le retour, et le président de l'IPSE, celui qui n'arrête jamais. Je vous ai vu dans tous les médias là, vous avez fait la tournée médiatique, hein.
Oh, je fais
entre le Qatar, entre l'Afrique,
il se passe plein de choses à Paris.
Oui, j'ai vu ça,
tout le monde converge vers Paris, c'est bien.
J'ai vu ça,
notre beurre, comme on dit.
J'ai vu les enjeux géopolitiques en Afrique, les enjeux géopolitiques au Qatar, les enjeux géopolitiques
au Maroc demain.
Ouais, je vois. Vous partez, vous prenez l'avion?
Non, on a un grand colloque pour essayer d'expliquer que le déplacement de Stéphane Séjourné n'a pas été très conclusif. Voilà. On va prendre une journée pour le dire, pour décortiquer.
En tout cas, c'est parti avec vous, Maître David Libetsky. Bon, ça va?
Ça va.
Tout va bien. Notre financier à nous, qui est avec nous, hein, bien sûr, mais élu,
abondi.
Oui. Il prend plaisir à dire que c'est un élu, parce que c'est un peu le retour en force de Karim Alouache.
Bonsoir. Non, mais c'est rigolo, parce que j'étais dans l'opposition quand on avait une majorité de gauche, et je suis dans l'opposition avec une majorité de droite. Je suis dans l'opposition.
Bon, en tout cas, vous êtes dans l'opposition. Autre élu, et il est communiste, il est député suppléant, mais également aussi l'élu de la ville du 93.
Pierre Fitt, Adine.
À chaque fois, tu faisais.
C'est pas grave.
Là, c'est incroyable. Pourquoi
Il faut que je perce le mystère.
Parce que là, il y a un truc qui cloche chez moi.
Je veux pas du tout.
J'ai géolocalisé.
Pierre Fitt, c'est pas ce qui va faire du mal.
Ça n'a rien à voir. C'est pas j'ai du mal. C'est que je veux pas imprimer le Pierre Fitt. Je le vois plutôt à.
Villepinte. Trois fois, t'as dit Villepinte.
Il a une tête d'élu de droite, en fait.
C'est le costume qui fait qu'il est de droite. Méfiez-vous.
Non, il a l'air gentil, c'est communiste.
Méfiez-vous. Vous l'avez pas vu sur CNews, comment il était. Il s'est transformé en pitbull.
C'est chez CNews.
Ça, j'appelle pas. Bah, chez Morandini.
Il a raison, oui, mais chez moi.
Il s'est transformé en pic d'une personne.
Ça va avec le type d'émission. Il faut être mordant chez moi.
Ouais, exactement.
Il faut être mordant. Allez, messieurs, nous allons commencer ce premier sujet. C'est la colère des agriculteurs, y compris ce matin. Ils ont fait une descente sur le rond-point des Champs-Élysées. Ils ont fait une descente à Paris. La colère, évidemment, eh bien, vous savez quoi, elle continue tout simplement de faire parler d'elle. Puisqu'aujourd'hui, on peut considérer, je vous pose la question, est-ce qu'on peut considérer d'un côté les syndicats FNSEE, parce que FSEA, alors évidemment, on connaît les enjeux, on connaît évidemment leur attache aussi avec un certain nombre de personnalités, mais les petits agriculteurs, eux, voient ça d'un autre regard. Alors, messieurs, Emmanuel Dupuis, la guerre est-elle déclarée? Et franchement, peut-on reconnaître que les agriculteurs veulent gagner à tout prix cette bataille face au gouvernement, l'exécutif?
Moi, je ne crois pas que ce soit une bataille entre les agriculteurs et le gouvernement. C'est une bataille pour la survie. ils sont au pouvoir. Donc, évidemment, on s'adresse et évidemment, on s'affronte avec ceux qui exercent le pouvoir. Ce que je veux dire, c'est que le problème actuellement, c'est la survie de notre modèle agricole tel qu'il existe en France depuis plusieurs siècles, avec une logique qui consiste à dire...
Vous avez raison, merci de le rappeler, depuis plusieurs siècles, c'est vrai.
Mais c'est ça l'enjeu.
C'est ça, vous avez raison de le rappeler.
C'est pour ça que je dis que c'est pas une guerre contre l'exécutif.
Vous avez raison.
Il se trouve que cet exécutif pratique un acronyme que vous êtes peut-être familier, le TINA, There is no alternative. C'est pas nous, c'est eux.
C'est eux.
C'est nos partenaires européens. C'est la politique agricole commune. Ce sont les quotas...
Merci de nous rappeler l'histoire.
Bah, c'est une histoire immédiate aussi. Hein. C'est récent, la politique agricole commune. Hein.
Oui.
Elle a été votée en 65, elle a 65. Été mise en application en 85.
Oui.
Donc, il n'y aurait pas d'alternative, car rien ne se fait ici, tout se fait à Bruxelles. Nous ne pourrions pas être nous-mêmes décisionnaires, car un certain nombre de partenaires européens n'ont pas la même sociologie du type d'agriculture. Nous sommes d'une agriculture mixte, avec une agriculture des grands espaces dans le Nord et une agriculture plus familiale et plus contrainte par notre géographie. D'autres pays, tels l'Ukraine, tels la Pologne, ou l'Allemagne, ont des agricultures plus extensives. Donc, dans le cadre de la modélisation, s'en sortent mieux. Parce que sur les marchés mondiaux, la taille de votre exploitation, la capacité...
Sauf que là, Emmanuel Dupuis, merci de nous rappeler, évidemment...
J'ai pas fini
tout l'enjeu, même si vous n'avez pas fini.
J'étais un peu long, là.
Ouais, c'est ça, il était
un peu long,
là. Non, mais c'est pas ça.
J'allais juste d'une phrase évoquer.
Allez-y, alors.
Le fait qu'il ne s'agit pas d'une guerre entre les agriculteurs et l'exécutif, mais une guerre entre les agriculteurs eux-mêmes.
Ben, quand ils font une descente sur le rond-point des Champs-Élysées, ils défient quand même l'exécutif.
Ils défient l'exécutif qui leur a fait des promesses non tenues.
Ouais, donc c'est une guerre.
C'est une guerre.
Face à des gens qui ont promis des choses qu'ils n'ont pas mises en place.
Mais c'est une guerre contre le gouvernement parce que le gouvernement a dit un certain nombre de choses, a reçu la FNSEA, a reçu les autres syndicats et a promis un certain nombre de choses. Mais on voit bien que ils sont pas tout seuls. Il faut aussi discuter en Europe de la PAC et que c'est pas si facile que ça. Mais moi, la question qui est posée et que les agriculteurs et les agriculteuses y posent, c'est quoi? C'est ils veulent vivre de leur travail. C'est clair. Macron dit souvent, oui, il faut travailler. Ben là, il a des gens qui travaillent et qui travaillent beaucoup, mais qui ne sont pas payés. Et c'est ça la question. C'est comment ils sont payés.
Sauf que là, les agriculteurs ce matin, quand vous les écoutez parler, ils disent clairement, on n'y croit plus. L'exécutif, on ne croit plus à leurs paroles. On croit en plus rien. Et je crois que la ras-le-bol, ça, il est consommé
c'est ça,
là.
Ouais,
est vraiment consommé. Karim Alouache et ensuite Maître David Libesque.
Non, mais les agriculteurs, les paysans sont extrêmement rationnels en fait, hein, les gens de la terre. Les mots MOTS ne soignent pas les mots.
Oui.
D'accord. Donc les paroles, ils s'en fichent. Eux, ce qu'ils veulent, c'est des actes. On ne peut pas dire d'un côté on vous comprend, on vous soutient et on signe les accords du Mercosur, etc. Tout ce qui se passe derrière. On peut pas, légaliser.
Il y a eu deux encore.
Encore deux.
On peut pas légaliser une concurrence déloyale. Tu peux pas interdire des produits dans l'agriculture en France et importer des produits et importer des denrées alimentaires qui utilisent ces mêmes produits toxiques et interdits depuis même des dizaines d'années. Emmanuel parlait de l'agriculture extensive en Allemagne. Oui, l'Allemagne est remarquable pour ses exploitations au niveau bétail. Mais ce sont des usines à bétail. Est-ce qu'on a envie de manger ça? Est-ce que j'ai vu aussi, parce que maintenant,
pareil
avec les nouveaux accords en Mercosur...
Les frais, c'est pire encore.
Les cheptels en Amérique, ils arrivent à un bœuf à doubler son volume en deux mois ou trois mois en le piquant en zone.
Donc ça veut dire quoi?
Ça veut dire que d'un côté,
c'est alors, pire, non, les amis.
Donc il y a un côté d'abord en termes de sanitaire, de santé. Il y a un côté en termes de coût. Tu peux pas dire l'Ukraine, vous êtes en guerre, les pauvres, allez hop.
Mais
on fait
les
sauter
poulets,
toutes les taxes
d'après vous, Karim Alouache, les poulets qu'on mange en ce moment là, c'est viennent d'où? Ils viennent d'Ukraine. Je vous le dis, ils viennent d'Ukraine.
Ils venaient. Alors,
vous mangez du poulet ukrainien.
En grande partie, ils venaient déjà d'Ukraine. Sauf que là, ils coûtent beaucoup moins cher parce qu'on a fait sauter toutes les taxes. Donc on est dans une relation. On peut pas dire il y a une réglementation sanitaire européenne et de l'autre côté, la plupart des autres ne jouent pas le jeu. Donc c'est une concurrence déloyale. Et aujourd'hui, il suffit pas de dire on va faire, on peut faire, on verra. Si vous vous souvenez, ils étaient persuadés, parce que ça s'était un peu calmé, que le salon de l'agriculture allait bien se passer. Il s'est très mal passé.
Ça c'était très très mal. Encore maintenant. Encore maintenant.
Et là, ils remettent
tout.
Encore
maintenant.
Mais tu sais, ça veut dire quoi tout ça?
Maréchal,
ça veut dire.
Non mais. Un coup de bière.
Non mais ça veut dire aussi.
À ta santé. Pardon, pardon, clochette.
Que les syndicats.
J'ai supprimé le tweet d'ailleurs.
Ça veut dire aussi que les syndicats, dont le plus grand syndicat n'est pas forcément le porte-parole des exploitants et des exploitations.
Oh mais c'est aussi. Non. Alors attendez, vous savez, messieurs.
Et ça, maintenant, la donne, elle est en train de changer.
Moi, je voudrais vous entendre. Je vais donner la parole à Maître David Lebesgue, mais je voudrais vous poser une autre question et je voudrais vous entendre. C'est la guerre avec, face à l'exécutif, mais vous savez, c'est quoi? C'est aussi une autre guerre. La guerre entre agriculteurs. Je ne sais pas qui de vous l'a dit tout à l'heure.
Non, entre syndicats.
Non, 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 Emmanuel. Il y a les petits agriculteurs, il y a les syndicats, et les syndicats entre. Écoute, tout ça, c'est la guéguerre de ce petit monde.
Les petits agriculteurs ne sont pas tous représentés au sein de la FNSEA.
Oui,
non, ils ont quitté la FNSEA pour monter la coordination rurale.
Oui, parce qu'on n'a pas entendu Maître David. Maître David Lebesgue, s'il vous plaît, clochette.
Alors, pour parler, on va parler de la guerre entre syndicats. Donc, il y a deux blocs. Il y a la à mon sens, il y a la coordination rurale. Et il y a la Confédération paysanne.
La FNSEA, oui.
Voilà, qui est syndicat historique. Et il y a de l'autre côté. De l'autre côté, il y a la FNSEA. Le problème, c'est que la FNSEA, pendant des décennies, en fait, elle a co-géré quasiment l'agriculture avec les gouvernements successifs.
Bien sûr.
Et que la FNSEA, en fait, ne représente quasiment que les grandes exploitations. Donc, c'est là où est le souci. Et moi, j'ai bien peur, quand, malheureusement, que bon, ça s'enlise à cause de la FNSEA.
Mais ça s'enlise déjà.
Pas à cause de la coordination rurale ou la confédération paysanne. Ouais, en fin de compte, comme c'est la FNSEA qui est alors syndicat majoritaire, qui a la main sur tout, qui négocie en fait avec le gouvernement. Malheureusement, je crois que c'est pas quelques tracteurs sur la place de l'Étoile. D'ailleurs, il y a, pour la petite histoire, il y a quand
ils même... sont plus. Hein.
Il y a quand même... oui, ils sont en garde à vue. Ils sont 66
oui, personnes.
Ont été interpellés. Hein, la répression bat son plein contre les opposants. Ça continue.
C'est l'avocat qui parle.
Voilà, 66 agriculteurs interpellés. Alors,
pour trouble à la circulation.
Oui, entrave à la circulation.
Entrave à la circulation.
On sait très bien qu'ils sont pas assez dits. Ça enlise en fait malheureusement le conflit. Puis bon, le salon de l'agriculture finit dimanche, je crois. Et voilà, et puis il y a l'Europe, mais après, bon, c'est toujours l'argument. C'est pas la faute du gouvernement français, là, c'est la faute de l'Europe.
Non, mais c'est pas. Mais, non.
Le problème, c'est que là, récemment, je crois que c'est aujourd'hui ou hier, le Parlement européen a approuvé encore deux accords de libre-échange.
Exactement.
Donc,
en fin de compte,
dit Emmanuel Macron, quand il dit qu'il suspend les accords de libre-échange, c'est faux. Le problème, c'est le contexte mondialisé de libre-échange. Voilà, il faut revenir sur cette philosophie et avoir comme les Américains font, avoir plus de protection pour la France.
S'il vous plaît, Karim Alouache, Emmanuel Dupuis.
Numéro un, le problème, c'est des règles européennes à géométrie variable, et ça, c'est pas acceptable. La deuxième chose, c'est pas l'Europe, c'est la représentation de l'Europe au sein du Parlement européen. Aujourd'hui, je vais vous dire une chose purement politique. C'est quoi les élections européennes? C'est des listes qui sont montées où on met les copains du parti pour leur donner un taf et une rémunération.
Sans le Parlement européen, aucun pouvoir.
En réalité, on a des gens qui ne font rien. D'ailleurs, prenez les collectivités locales, les collectivités territoriales. Qui fait appel au Fonds européen? Jamais personne. Non, on a l'impression que l'Europe, c'est quelque chose
qui est un système de libre-échange
qui nous est inexistant.
Qu'est-ce qu'elle
est lourde? Et qu'on n'y est pas représenté.
L'Europe, c'est trop lourd, la Commission européenne. Si on
mais s'en foutent les agriculteurs, que ce soit l'euro ou pas, sûr, les amis.
Mais c'est qui décide? C'est la Commission européenne. C'est les chefs d'État qui se mettent d'accord, etc.
Et le Parlement européen, monsieur Attal, il a une marge de manœuvre.
Il a une marge de manœuvre.
Bien sûr qu'il a une marge de manœuvre. Arrêtons de tout. Farine, s'il vous plaît. Arrêtons de tout renvoyer à la Commission européenne.
Il y a Jacques Chirac.
C'est la Commission européenne.
Il y a Jacques Chirac. Quand il en a eu marre du fonctionnement de la Commission européenne, il a fait la politique de la chaise. Vite.
Exactement.
Et on est venu rapidement le chercher. Parce que c'était pas acceptable.
Oui,
alors là, il faut prendre ses responsabilités.
Emmanuel.
Il y a un petit peu de vrai dans ce que vous dites, mais il y a aussi un oubli absolu. C'est que la Commission européenne ne peut fonctionner qu'en accord avec le Conseil européen et le Conseil de l'Union européenne, donc les États. L'Union européenne,
c'est...
Donc, si un chef d'État dit non, sa capacité de nuisance, je rappelle que la France contribue à hauteur de 18% au budget de l'Union européenne. Donc, c'est le deuxième contributeur, juste après derrière l'Allemagne. Donc si la France dit non, on devra faire des compromis. Regardez ce qui s'est passé avec la Hongrie. La Hongrie a dit niet pendant 8 mois, elle a obtenu 20 milliards d'euros. Donc si les agriculteurs poussent le gouvernement jusqu'à ses derniers retranchements, et je souhaite qu'ils le fassent, eh bien il faut qu'on courageusement nous disions, je termine d'une phrase, qu'on ne vote pas subrepticement des accords de libre-échange, parce qu'on a beaucoup focalisé sur Mercosur, alors qu'il y a plein d'autres accords de libre-échange qui posent problème, avec l'Australie, avec la Nouvelle-Zélande, et cela on les signe plus aisément, parce qu'ils passent sous le radar.
On marque une pause, si vous voulez réagir, n'hésitez pas, 0153483000, et on reviendra, vous savez quoi, sur ce second sujet, les deux copines, Madame Anne Hidalgo, bah oui, ça vous fait sourire.
Et Madame
Rachida. Et Madame Rachida.
Les informés des quartiers reviennent dans un instant. 19h-20h. Les informés des quartiers, présentés par Adil Farkan sur Beurre FM.
19h21, si vous venez de nous retrouver, les informés des quartiers avec Karim Alouache, Farid Aïd, Maître David Lebesquid et enfin Emmanuel Dupuis. Nous allons parler de cette guerre, guerre ou pas d'ailleurs, ou bras de fer, j'ai envie de dire, tout simplement entre les copines, je les appelle comme ça, Rachida Dati et Anne Hidalgo. Alors, qu'est-ce qui se passe-t-il d'abord ? Emmanuel Dupuis, j'aimerais qu'on creuse un peu plus, qu'on sorte un petit peu de cette guéguerre, Tour Eiffel, etc. Ça, c'est un prétexte. Que se passe-t-il ? Paraît-il qu'il faut remonter à Nicolas Sarkozy de l'époque où il y avait un bisbille, vous savez, de territoire, d'arrondissement, d'élection.
Bon, alors déjà, il faut avoir à l'esprit pour les auditeurs que la...
Vous savez, des alliances.
Tour Eiffel.
C'est la référence aux alliances des arrondissements.
La Tour Eiffel est domiciliée dans le 7e arrondissement.
Oui.
La maire du 7e arrondissement est la ministre de la Culture.
Oui.
Donc elle a une sorte de levier ou une détente ou une balle dans le barillet. Deuxièmement, la Tour Eiffel est le monument le plus visité en Europe, peut-être dans le monde,
dans
à vérifier.
Dans le monde.
À vérifier. En tout cas, le monument le plus visité en Europe. Donc avec des générant un certain nombre de revenus qui bénéficient à son bénéficiaire, qui est la ville de Paris, en fait la société d'exploitation externalisée, la SETE, ou la SETE, qui en fait reverse l'argent à la ville de Paris. Toutes les deux sont conseillères de Paris, je le rappelle.
Oui.
Donc, il y a une maire d'arrondissement, une maire de Paris, elles sont toutes les deux conseillères de Paris. Or, c'est la Tour Eiffel est gérée par les conseillers de Paris. Donc, il y a peut-être aussi une volonté de leur part de garder cela en gestion personnelle. Mmh. Et puis derrière tout ça, il y a effectivement une grosse somme d'argent, puisque on en discutait avec mon camarade David.
200 millions,
David.
Paraît-il.
Oui, enfin c'est beaucoup plus.
Parce beaucoup que, plus, non, d'accord.
C'est 14 milliards. 1,4 milliards.
Ouais, 1,4, parce que 14 milliards, ça paraissait beaucoup. Là, hein, déjà, le gouvernement,
c'est vendredi, vous m'excusez,
là.
Vous m'excusez l'exagération dans les faits. C'est 1,4 milliard d'euros que l'État doit verser, mais qu'elle n'a pas encore versé, à la société d'exploitation de la Tour Eiffel.
Ce qui expliquerait les raisons de cette discorde.
Ah bon, non,
pas que ça.
D'accord.
Je vous explique le contexte.
D'accord.
En fait, la raison de la dispute, elle est très simple. C'est que Rachida Dati veut désormais embêter Anne Hidalgo et Anne Hidalgo ne veut rien céder à son opposé principal, qui reste son opposé principal, d'autant plus que Madame Dati se prépare à lui opposer vertement une candidature à l'occasion de l'élection
municipale. Moi, si je peux me permettre
pour ajouter, bien sûr,
il y a cette guéguerre, et moi, je trouve que c'est cette guéguerre entre deux femmes qui veulent être candidates, une qui est maire et une qui est candidate pour la mairie de Paris, on le sait tous, etc. Mais il faut aller au-dessus de ça. Et au-dessus de ça, c'est il y a quelques jours de ça, les agents étaient en grève. Les agents de la Tour Eiffel étaient
plusieurs
en grève.
Jours,
ils ont perdu 20 millions d'euros d'exploitation sur les 6 jours,
beaucoup,
7 jours de grève, qui est énorme, sur la gestion. Parce que ils veulent aussi, les agents, travailler dans de bonnes conditions, premièrement. Ils veulent aussi qu'il y ait des travaux. Vous avez vu que ça s'use.
Il y a eu des travaux, déjà.
Exactement. Non, mais il y a encore des travaux parce qu'il y a eu de l'usure, etc. Ils ont remarqué qu'il y avait des choses encore à faire. Et je pense qu'aussi Rachida Dati, elle est dans l'idée que, comme Anne Hidalgo, elle ne s'est pas préoccupée de la contestation qu'il y a eu avec les agents, parce que les agents souhaitaient, au-delà de discuter avec avec les gestionnaires, discuter aussi avec la mairie de Paris. Pourquoi ils ont arrêté la grève? C'est parce qu'ils ont eu un accord pour échanger directement avec la mairie de Paris. Et Anne Hidalgo, qu'est-ce qu'elle pense? Elle pense que c'est un lieu emblématique en France et que à un moment donné, ils ne peuvent pas être en grève. Et c'est pour ça qu'elle préfère peut-être le mettre dans le giron, que ça soit un monument historique et que ça soit, j'irai peut-être différemment.
Anne, je vous rappelle quand même au passage, je ne sais pas si vous l'avez dit, Anne Hidalgo refuse quand même de classer la Tour Eiffel au titre des monuments historiques. Hein. Ce que réclame d'ailleurs c'est Rachida Dati depuis un moment déjà.
C'est ça le sujet.
Je le dis pourquoi, parce que
c'est pas la seule à le faire. Hein.
Oui. Non mais parce qu'elle tacle Rachida Dati elle a taclé comment elle s'appelle Hidalgo en lui faisant comprendre clairement qu'elle arrêtait avec ses insinuations un peu malveillantes. Maître David Libeski.
Ouais, alors.
C'est une déclaration faite dans la presse. Hein.
En fait, il y a plusieurs choses, mais bon, la première chose, c'est que. Il y en a une qui veut conserver la mairie en 2000, je crois que c'est 2026. Hein, c'est
ça, oui, 26. Oui.
Voilà, il y en a une qui veut conserver la mairie, il y en a une autre qui veut l'avoir. Et elle est rentrée à exprès, même, elle a dit elle-même, comme ministre de la Culture, en vue, en fait, que ça lui sert, en fait, de marchepied pour la mairie de Paris. Mais bon, elle a quand même du chemin à faire, hein, parce que Anne Hidalgo, elle est bien assise. Deuxièmement, il y a régulièrement à la Tour Eiffel des règles, je crois au moins une fois par an, soit c'est les agents de sécurité, soit les agents de service, etc.
Le personnel, donc, quoi.
Voilà, le personnel, en fait, qui travaille à la Tour Eiffel. Après, voilà, c'est malheureux qu'on instrumentalise notre pauvre Tour Eiffel. Ouais.
Elle doit pleurer, la dame de fer. Hein.
Bah oui, elle doit pleurer.
Elle doit pleurer, la pauvre.
Il y a un autre.
Oui, mais elle est en train de voir les 1,4 milliard passés. J'adore. Voilà. C'est pour ça que je dis qu'elle pleure.
Ouais, il y a un autre souci parce que, comme tu disais, elle est en travaux. Et je crois qu'il y a eu 1,4 million de travaux qui ont été déboursés, je crois, par Anne Hidalgo, et apparemment l'État n'a pas.
C'est pas acquitté de ça, me semble-t-il. C'est là où la guerre a commencé. Je vous rappelle un tweet. Tour Eiffel rétablissant la vérité des faits. Anne Hidalgo est manifestement mal informée. Le ministère de la Culture s'est acquitté de toutes les factures qui lui ont été présentées. Pourrait-elle d'abord commencer par verser par le ministère de la Culture 1,1 hein, et elle dit qu'elle s'acquitte déjà de son dû.
Oui, parce que l'État.
Là, on est en train de
parler. Apparemment, Anne Hidalgo n'a rien reçu. Hein, elle conteste avoir reçu.
Le ministère dit le contraire, mais bon, peu importe.
Mais c'est pas parce que le ministère dit le contraire qu'il a raison. Hein.
En fait, on assiste à un spectacle lamentable encore des politiques. D'abord nous, on a d'autres problèmes, on a rien à foutre en réalité. Hein, on va pas tourner autour du pot
Non, mais ça clash.
Moi, je vais vous dire une chose. Il y a un problème. D'abord, il y a un problème avec Anne Hidalgo. Oui. Et regardez très clairement l'état de Paris et la dégradation catastrophique, chaotique. La deuxième chose, il suffit de circuler. Hein. Il n'y a pas besoin de le dire. La deuxième chose, on ressent une chose très forte.
Il est vrai, là.
Adil, il habite dans quelle ville?
Anne Hidalgo ne veut pas.
C'est pas bien.
Je suis d'accord avec toi. Il est politique, mais il est élu aussi. Non, mais je suis élu d'opposition, je suis d'accord avec toi.
Oui, pas à Paris.
Lui dit tout et son contraire. Hein. Il embrouille, mais en fait, on comprend pas quand il parle.
Je veux vous dire un truc.
Non. Il dit je suis élu à Bondy. Bah oui, je suis d'accord avec lui. C'est ça aussi à Bondy. Ce que je veux dire, c'est que il y a eu l'affaire du PSG et du Parc des Princes. En fait, tout ce qui appartient à la ville de Paris, elle veut pas le lâcher. Comme si c'était sa propriété.
Vous avez la raison sur un point.
C'est une réalité.
La ville de Paris, effectivement, quand on voit quelques mois des Jeux Olympiques, effectivement.
Regarde l'État,
on
merde.
Peut s'interroger.
Qui peut me dire que Paris, c'est propre aujourd'hui?
Non, mais l'État de Paris, je parle.
Non, mais attends, c'est pas de la politique, ça. Vous avez raison. C'est factuel.
Vous avez raison.
D'accord? Ses seuls supporters sont les rats aujourd'hui dans Paris.
Ouais, vous avez raison. Moi, je les vois se balader, effectivement. Y compris dans les parcs. Avec les gamins qui viennent jouer.
Il y en a beaucoup, Karine. Il faut pas limiter que à ça.
Tout est chaotique dans Paris.
Dans le 19e.
Et il y a des rats dans le 19e ?
À côté des parcs, je ne sais pas, je ne fais pas la chasse aux rats, donc voilà. Je ne peux pas dire. Mais alors, pourquoi il y a beaucoup de rats dans Paris ? Parce qu'il y a beaucoup de restaurants, enfin, comme toujours. Hein.
Ouais, il y a toujours eu des restaurants.
Ouais, voilà. Mais là, merci, maître. Non, ouais. Beaucoup de travaux aussi.
Ce qui fait, après,
non,
après
beaucoup
voilà,
de travaux,
c'est
ça
des rats.
Non.
Je vais vous dire, je vais vous dire pourquoi, parce que moi j'ai pas la chance, mais je connais quelqu'un qui travaille pour la ville de Paris et qui s'occupe du sujet, notamment d'hygiène. Et ben l'information est très simple, c'est que il y a les défenseurs des animaux à la ville de Paris et qui ont décidé un jour d'arrêter de stériliser les rats.
Voilà.
Et ça, c'est une vérité. La deuxième chose, Euro 2016. Deuxième chose, Euro 2016.
Quelle source, quelle
fan zone, de la bouffe partout. C'est pas. Va au Champ de Mars.
Oui.
Pourquoi il y a beaucoup de rats au Champ de Mars?
Oui, il y en a plein.
Voilà. Bah, ils viennent visiter.
Ça date de l'Euro 2016. Voilà.
Voilà. Non,
mais c'est des rats de droite.
C'est des animaux. Ils ont droit de vivre.
Ce sont des rats de droite. C'est des ratatouilles.
Non, mais.
C'est ratatouille.
C'est ratatouille. Il est en forme. Hein.
Un jour, sur l'esplanade. Sur l'esplanade des Invalides, un jour, je te promets, j'ai vu un rat. Il avait la taille de mouche.
Je vous crois.
Et il m'a dit, je m'appelle Ratatouille.
Je vous crois. Emmanuel Dutille.
On dit d'ailleurs, on dit plus des rats. Hein, c'est politiquement incorrect. Voilà. Il faut dire des doubles mulots.
Oui, enfin,
les surmulots.
C'est ce que dit un chat.
Pour revenir sur le fond.
C'est plus sympa.
Bon, premièrement, la campagne. On l'a compris, la campagne municipale a commencé. Et elle a commencé entre deux candidates qui ne lâcheront pas et qui ne se lâcheront pas l'une vis-à-vis de l'autre. Deuxièmement, Rachida Dati a quand même une arme en sa possession, puisque maintenant elle fait partie du gouvernement, et je crois que c'est dealé. Outre le fait que nous avons été un peu surpris du fait qu'elle passe de l'autre côté de la barrière, par contre, ce qui est plus intéressant, c'est qu'on va surtout avoir une réforme institutionnelle de Paris. Hein, la fameuse PLM Paris-Lyon-Marseille va disparaître. Et donc, du coup, Madame Hidalgo, elle se rend compte que si on enlève ça, eh bien, elle est minoritaire. Donc, Madame Dati, elle peut faire tout ce qu'elle veut, elle peut se chamailler tout ce qu'elle veut. À partir du moment où l'État peut décider de changer la loi jusqu'en avant 2026, c'est-à-dire en 2025, elle gagnera la mairie à cause de ça.
Merci pour ce rappel d'infos. On marque une pause et on se retrouve dans une poignée de minutes.
Je précise,
s'il vous plaît,
parce que la droite est majoritaire.
01 53 48 3000. Et là, je voudrais vous entendre réagir, puisqu'on va parler de la situation meurtrière de distribution de nourriture. Nous reviendrons aussi sur cette guerre en Israël, à Gaza, où tout simplement la distribution alimentaire est en train de virer à la tragédie. Je voudrais vous entendre venir en parler. 01 53 48 3000. Comment, évidemment, vous vivez tout cela? À tout de suite. Solal vous accueille au standard.
Les informés des quartiers reviennent dans un instant. 19h-20h, les informés des quartiers, présentés par Adil Farkan sur Beurre FM.
Et je voudrais ouvrir l'antenne, c'est parti, jingle.
01 53 48 3000. Les informés vous donnent la parole.
On vous donne la parole. Vous savez pourquoi ? Parce qu'on voudrait parler de la situation à Gaza, la situation à Rafah en ce moment où beaucoup s'inquiètent. La communauté internationale s'inquiète, préoccupée notamment. Beaucoup de présidents aussi ont appelé à ce fameux cessez-le-feu. 01 53 48 3000. La distribution alimentaire qui a viré à la tragédie. Alors qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui ? On va se poser ces questions. Le conflit qui a fait plus de 30 000 morts à Gaza, c'est officiel. Nous allons en parler, nous allons faire un tour de table. Et puis, vous, au 01 53 48 3000, je vous attends. Enfin, plutôt Solal vous attend au standard pour venir commenter cette actualité. Emmanuel Dupuis, alors, d'abord, ce constat. Un chiffre qui est tombé, c'est le conflit qui a fait plus de 30 000 morts, des bébés, des enfants.
Des femmes.
Et des femmes, notamment. Et puis, cette situation de distribution alimentaire qui a viré un peu la tragédie. Emmanuel Dupuis, parlons-en.
Ah ben, c'est une vraie tragédie. Tragédie, pardon. Avec 120 morts, si je ne m'abuse, au dernier recensement.
Emmanuel Macron a exprimé sa profonde indignation.
Bah, c'est la moindre des choses. C'est la moindre de ce qu'il pouvait faire. Et je crois que la planète.
Et réclame un cessez-le-feu.
Oui, alors, Emmanuel Macron réclame depuis.
Immédiat.
Alors, je répète, merci de me tendre de nombreuses perches. Emmanuel Macron, la France et l'ensemble de la communauté internationale réclament depuis le début la même chose. Un cessez-le-feu immédiat. Ah ben si, toutes les résolutions onusiennes, c'était littéralement
et la libération des otages
immédiat et la libération des otages.
Il faut quand même le préciser.
Oui. Non mais c'est la raison pour laquelle ça n'est pas passé. Aucune résolution n'est passée car il y a eu des vétos, des pays qui soutiennent la position américaine, la Croatie, par exemple, l'Autriche, à un moment, la Hongrie, mais aussi les Barbades. Et je dis les pays qui soutiennent les États-Unis, donc les États-Unis. Il y a 4 ou 5 pays qui ont refusé.
Et tu as remarqué qui est envoyé pour voter pour le veto, c'est toujours des Afro-Américains. Vous n'avez jamais remarqué ça ?
C'est-à-dire ?
Pour les États-Unis, les représentants des États-Unis qui votent.
Ah ben parce que l'ambassadrice, elle est Afro-Américaine.
Non, mais à chaque fois. Emmanuel, à chaque fois que les États-Unis ont mis un veto pour des résolutions contre Israël, à chaque fois, ça a été des Afro-Américains qui ont représenté, qui ont voté le veto. Oui,
mais après, non, c'est pas des Afro-Américains, ce sont d'anciennes colonies américaines.
Non, je te parle des représentants.
Représentants des Nations Unies,
c'est du gouvernement américain.
Je comprends pas.
Ouais, mais je crois que c'est aucun rapport. Hein.
C'est une coïncidence, on va dire.
Il y a beaucoup d'Afro-Américains.
Bah oui, la diplomatie américaine est beaucoup plus.
Emmanuel Dupuis, ce qui inquiète beaucoup, c'est que la distribution d'aide alimentaire, elle a viré au cauchemar. Voilà. C'est ça. Je voudrais qu'on se pose quelques minutes, s'il vous plaît, pour en parler. Parce que là, ça préoccupe quand même. Il n'y a pas besoin d'être humaniste juste pour
se mettre en parole.
Qu'elle a tourné au cauchemar. C'était pas le but.
Non, mais dès le début, ça a tourné au cauchemar. C'est pas le cauchemar maintenant.
Oh, mais là, c'est une tragédie.
Mais c'est une tragédie du début.
Non, mais Emmanuel, il a raison.
Je ne comprends pas ce que vous dites. Je ne comprends pas ce que vous dites. C'est pas une tragédie maintenant, c'est une tragédie dès le début.
On a une centaine de morts lors de cette distribution d'aide à Gaza. C'est pour ça que je vous parle de tragédie.
Mais
centaines de morts.
Encore une fois, Adil, je ne suis pas d'accord. C'est pas parce qu'il y a eu 120 morts que c'est une tragédie. C'est une tragédie parce que depuis le début, il y a eu 30 000 morts. Dites pas que c'est une tragédie parce qu'il y a eu 120 morts. Parce que ce serait profondément injuste de dire ainsi.
Juste pour les distributions alimentaires. Maître David Lévesque.
Non, mais c'est vrai. Non, mais en fait, je comprends, Adil. C'est tragique là. En fait, les Gazaouis viennent chercher de l'aide alimentaire et ils se font tirer alors par les Israéliens.
Après, et surtout, ça tourne au cauchemar, c'est ça qui est.
Voilà,
ça
tourne au
cauchemar. Ils s'y attendent pas, ils viennent pour survenir à leurs besoins.
Alors, il y a une enquête d'Israël, mais peut-être l'enquête ne sera pas objective. Alors, je ne sais pas, mais tous les chefs d'État, beaucoup de chefs d'État réclament une enquête indépendante. Donc, ça sera bien peut-être que les Nations Unies se penchent dessus, parce que je ne vois pas non plus l'intérêt d'Israël en fait de canarder en fait des Gazaouis qui viennent chercher de l'aide alimentaire. Donc faut vraiment savoir ce qui s'est passé.
Oui,
alors effectivement, vu globalement, c'est une tragédie, parce que comme dit en fait Emmanuel, il y a 30 000 morts. Alors je sais pas, c'est toujours selon le ministère du Hamas.
Voilà, il faut surtout le dire, c'est le ministère de la santé.
Tout
le monde s'accorde.
Attendez,
c'est parce que l'État israélien veut pas aussi que les journalistes aussi rentrent à Gaza aussi.
On dit que c'est beaucoup plus.
Oui, il y a 147 journalistes tués.
On dit que c'est beaucoup plus. On dit que c'est beaucoup plus.
Voilà, c'est beaucoup plus parce qu'il y a des disparus, etc.
Les observateurs des Nations Unies.
Et après, bon, accessible immédiat, oui, pourquoi pas. Mais après, faut aussi penser aux otages.
Ouais, mais là on parle.
Moi j'essaie de penser.
Non, mais je respecte la parole de David parce qu'elle est très mesurée. Il y a le pour et le contre. Un cessez-le-feu donnera l'impression qu'in fine le Hamas pourra reprendre ses activités militaires. Il reste encore 132 otages, il faut le rappeler, et il faut les libérer autant qu'il faut éviter des victimes collatérales. Premièrement, l'aide humanitaire est une aide humanitaire dont la responsabilité n'est pas seulement imputable à l'État d'Israël, mais aussi à l'Égypte, parce qu'elle transite par l'Égypte. Or, l'Égypte a fermé sa frontière aussi.
Oui, mais c'est normal.
S'il vous plaît, je vais vous donner la parole. Je voudrais juste vous communiquer un élément quand même. S'il vous plaît, attendez, je vais vous laisser répondre.
L'Égypte, à base, les nazis voulaient déplacer les juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Non. Au départ, c'était un sujet de les déplacer. Ça s'est transformé en extermination. On peut pas. Moi, je crois qu'il faut penser au peuple.
Je vais juste glisser un mot, juste vous dire que, vous savez quoi, la guerre qui a transformé le territoire palestinien en zone de mort, ça, c'est l'ONU qui dit ça, qui est déjà de très loin la plus meurtrière des 5 conflits opposés à Israël ou à Hamas depuis 2007. Voilà.
Aujourd'hui, ça sert à rien de dire c'est lui. Non. Aujourd'hui, il y a une population qui vit dans un état humanitaire catastrophique.
C'est la famine.
Non, mais c'est la famine. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Il y a 1 200 000 personnes qui sont enfermées et qui sont en train de crever devant les yeux de tout le monde. Et quand l'aide humanitaire enfin elle arrive, mais imaginez, vous avez faim, vous avez une femme, des enfants à nourrir. C'est des questions de survie Et il y a combien? 120 morts. Il y a eu quand même des coups de feu tirés. Bon, on verra ce que donnera l'enquête. S'il y a une enquête, je vous rappelle quand même que moi, ce qui me dérange en termes de transparence, c'est que c'est le seul conflit au monde qui interdit l'accès aux journalistes. Il n'y a pas un journaliste étranger qui est là-bas. Il y en a X qui ont été tués. L'accès aux représentants des Nations Unies, il n'y en a pas. L'accès aux ONG, en parlons pas, il y a même plein de morts au niveau des ONG.
L'accès aux ONG, t'exagères, il y a beaucoup d'ONG qui ont témoigné de ce qui se passait à Gaza.
C'est une black box complète.
Y compris sur notre antenne, il y a des
journalistes
Il n'y a pas de reportage. Les seules images que vous avez, c'est celles qu'on veut bien nous donner par les acteurs sur le terrain.
Palestiniens, ils ont diffusé.
Non, là, c'est pas tout à fait vrai. Al Jazeera est quand même présent à Gaza.
Oui, Al Jazeera, exactement.
Attends, arrêtez. Il n'y a pas de journalistes occidentaux à Gaza.
C'est pas vrai.
Bah, si, TF1, non, personne rentre.
L'AFP ?
Non, parce qu'ils ne rentrent pas. C'est de la sous-traitance de gens qui
reçoivent des images.
Mais
on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de traitement médiatique, c'est pas vrai.
Non, on ne veut pas. Non. Là, je suis pas d'accord avec vous, c'est peut-être limite de mauvaise foi.
Pas du tout.
C'est pas moi qui le dis, c'est les reporters internationaux qui le disent. Ah. On n'a jamais vu un conflit qui ne peut pas être couvert par les journalistes.
Alors que les images que tu vois, ça vient
d'accord. C'est le seul.
Mais il y a quand même.
Alors, on n'a pas entendu Faraday.
D'abord, je trouve ce qui est malheureux, et on l'a dit il y a 3 semaines de ça, dans cette même radio, qu'on parle plus, on parle peu de la situation à Gaza. On l'a dit, et j'avais même remercié Adil parce qu'on en avait parlé ici à la radio. Premier point. Là, on en reparle. Pourquoi ? Parce qu'il y a une tragédie. Parce qu'il y a quelque chose qui ne devrait pas se passer. Comme tu l'as dit, les Gazaouis sont dans une prison à Gaza. En plus de ça, ils crèvent la faim. Et en plus de ça, on essaye de leur donner un peu à manger et ils se font tirer dessus. Alors, moi, je ne dis pas autre chose. Bien sûr qu'il faut une enquête, etc. Mais quand on a dit ça, oh, il faut une enquête, etc. On laisse comme ça? Moi, je suis pas pour qu'on laisse comme ça. Il faut un cessez-le-feu. Mais pour qu'il y ait un cessez-le-feu, il faut que les Français, le gouvernement français, arrête de vendre des armes à Israël. Il faut, à un moment donné, se dire les choses.
C'est plutôt les États-Unis qui financent l'armée israélienne.
Les États-Unis, on n'a pas de prise sur les États-Unis. Moi, j'habite pas aux États-Unis. J'ai pas de prise sur Biden ni sur Trump. En tout cas,
pour les armes, c'est les Américains.
Oui, mais il y a aussi les Français. Si. Il y a les Français. Je suis désolé, renseigne-toi, David. Moi, je l'ai vu à l'Assemblée nationale. Il y a des livraisons d'armes en Israël, par la France. Regarde,
tu parles ici, actuellement.
Bien sûr, il y a des ventes d'armes français à Israël, David. Bien sûr, ça c'est le premier point.
Pas le certain qu'on point. Les ait pas arrêtés, mais bon.
Qu'est-ce que dit le président du
Vous regarderez. Vous regarderez si on les a arrêtés ou pas. Vous regarderez. Attendez, ça c'est la première chose. La deuxième chose.
C'est important l'information que tu donnes, elle mérite d'être vérifiée.
Bien sûr.
On va vérifier que la France livre actuellement des armes aux Israéliens, en tout cas à Netanyahou.
Voilà. Oui, au gouvernement.
C'est Netanyahou.
Ça veut dire qu'il faut vérifier ça, il faut arrêter la vente d'armes au niveau d'Israël, premièrement. Deuxièmement, il faut aussi qu'on se dise à un moment donné, il faut arrêter ces incantations, il faut cesser le feu. Non mais c'est vrai, ça devient du ridicule. Tous les jours, Macron dit il faut faire un cessez-le-feu. Et c'est pour ça que je remercie terminer Adil, je remercie moi toutes les personnes qui manifestent. Aujourd'hui, il y a une grande manifestation à Saint-Denis pour dire il faut un cessez-le-feu, il faut qu'on arrête. Il faut qu'on trouve le chemin de la paix.
Le chemin de la paix. C'est là-dessus, mais avec Emmanuel la masse, c'est pas si compliqué.
Donc on sera tous d'accord pour dire qu'il faut trouver le chemin de la paix.
Ouais. Par contre, c'est clair.
Je ne suis pas du tout certain que la France ait la capacité de l'imposer de quelque nature que ce soit.
Ben, on sait clairement aussi,
parce que nous sommes marginalisés dans notre rapport à l'autorité palestinienne qui ne nous considère absolument pas comme un acteur légitime et nous sommes évidemment pas le premier partenaire du régime de Benjamin Netanyahou. Tout ça se joue entre le Qatar, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, les États-Unis, pire, entre les services de renseignement, c'est là où la discussion se fait le mieux. On peut modestement accueillir à Paris, à l'occasion de 2 réunions, des discussions dans lesquelles on est simple observateur. Ne pas avoir cette naïveté de croire que Emmanuel Macron va imposer une quelconque paix que ce soit, même s'il a invité l'émir Al-Thani du Qatar, qui lui a gentiment dit qu'il traitait avec Washington. Donc ça, c'est une première chose. Deuxièmement, je ne suis pas du tout certain, mais je peux plaider coupable, si je me trompe, que la France n'a pas cessé ses livraisons d'armement à partir du moment où, deux semaines après le 7 octobre, Israël a lancé ses opérations militaires. À vérifier.
À vérifier.
À vérifier. Par contre, une réalité, non mais juste pour préciser une chose, c'est vrai que la France est un partenaire militaire de l'État d'Israël, comme elle l'est avec d'autres pays. Mais je ne suis pas certain qu'elle n'ait pas cessé.
Depuis le je vais vous dire, depuis le déclenchement, depuis le déclenchement de la guerre du 7 octobre, Paris souligne simplement qu'il a renforcé sa coopération militaire en matière de renseignement. Fin janvier, le ministre des Armées, souvenez-vous, Sébastien Lecornu, a déclaré à Mediapart que la France exportait des équipements militaires à Israël afin de lui permettre d'assurer sa défense contre l'article 51 de la Charte des Nations Unies.
En faveur.
En
utilisant l'article 51
de la Charte des Nations Unies, en lui donnant donne droit. Sans plus de précision, les amis. Donc, je vous le dis.
Donc, t'as raison, en fait.
Paris.
L'équipement militaire, c'est très général. Hein.
En 2014, Paris avait pourtant pris des mesures de restriction à l'encontre de la Russie, idem en 2019 vis-à-vis de la Turquie, mais n'a jamais cessé de livrer des armes à Riyad dans sa guerre au Yémen. Je remonte juste un peu plus haut, juste pour vous dire. Hein. C'est très ambigu parce que là, on parle d'ambiguïté vis-à-vis de l'Europe. Les Pays-Bas ont décidé ce mois-ci d'arrêter. De ne plus livrer d'armes à Israël. Une première regard des autres pays du continent, l'Allemagne, l'Italie, le Royaume-Uni continuent d'alimenter Tel Aviv en armes et en renseignement militaire. Quant à la France, longtemps premier fournisseur d'armes à Israël et aide de premier plan, comme l'a rappelé David, Farid, au premier de se doter de l'arme atomique, sa position deviendrait de plus en plus ambiguë. Voilà ce qui est dit. C'est le rapport qui dit ça.
L'Israël est déjà une puissance nucléaire.
Donc ça ne s'est pas arrêté. Ça s'est pas arrêté après. Moment donné, on peut faire toute la politique qu'on veut, la géopolitique que l'on veut. Il y a des gars qui meurent, il y a des enfants qui meurent, il y a des femmes qui meurent, et ça, il faut que ça s'arrête.
Voilà, il faut le dire.
À un moment donné, il faut qu'il y ait un stop. On peut pas continuer à être observateur.
On est observateur.
On fait quoi? Il faut que les États, à un moment donné, fassent entendre raison en disant on peut pas continuer parce que d'abord on va entretenir une telle haine. Merci, jamais messieurs. On se relèvera de ça.
Merci messieurs, nous arrivons au terme de cette émission. Merci à Farid Aïd.
Merci à vous toutes et vous tous.
Absolument. L'élu mais député aussi suppléant sur le département du 93, Pierre Fitz notamment. Merci. L'élu de Bondy.
Karim
Malouache.
Élu d'opposition, on dit.
Absolument.
Que chose soit clair. Parce que sinon, ça ne va pas être simple à comprendre.
Emmanuel Dupuy, le président de l'IPSE.
Voilà, l'opposant tout le monde.
À bientôt.
C'est vrai que par défaut, on pense toujours qu'on est élu de la majorité.
À bientôt. Merci à Solal à la réalisation. C'est Thème Sport, tout de suite, qui prend le contrôle de l'émission avec Thème Sport de 20 à 21. Vanessa, à 21h. Tous les programmes continuent, y compris dans votre application. Eh bien, c'est les programmes de BFM tout le week-end, à lundi avec autant de plaisir, mais surtout, on ne lâche rien.
Retrouvez les informés tous les jours de 19h à 20h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli BFM.